Merci beaucoup, Fred. Merci pour la louange. Le Seigneur dirige toujours les choses et je trouve que c'est extraordinaire ce que nous avons vécu parce que ça rentre bien dans ce que je vais vous partager ce matin. Ce matin, je voudrais vous parler au sujet des émotions et des sentiments. Alors, on va commencer par prier, si vous voulez. Seigneur, je t'offre simplement ce temps pour que tu t'en serves, pour nous enseigner, pour nous parler, pour nous conduire vers un moment, Seigneur, aussi de restauration, un moment de joie autour de ta parole. Seigneur, je t'offre mes faibles mots, certains par ton esprit, pour vraiment toucher nos cœurs. Je te le demande dans le nom du Seigneur. Fais-le, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Alors, en tant qu'êtres humains, nous sommes tous confrontés à des émotions et à des sentiments, n'est-ce pas ? Nous ne sommes pas simplement des êtres de volonté ou des personnes rationnelles. Nous sommes aussi des êtres émotionnels et nous éprouvons toutes sortes d'émotions et toutes sortes de sentiments. Alors, je suis allé un peu me regarder et savoir la définition émotion, sentiment, s'il y avait une différence. Est-ce que dans ma tête, c'était bien clair, qu'est-ce que ça voulait représenter? Alors moi, j'ai découvert, par surprise d'ailleurs, que les spécialistes ne considèrent pas les émotions de la même manière qu'ils considèrent les sentiments. Alors ça, ça a été pour moi une surprise. Voilà. Alors, les spécialistes disent que les émotions, ce sont des réactions quasi instinctives à un événement extérieur. On ne les contrôle pas dans un premier temps. Vous marchez derrière quelqu'un, vous marchez devant Chantal, là, sans vous faire voir, vous allez voir comment elle réagit. Et vous lui faites bouh, comme ça. Hein? Voilà. Chantal, elle vous fera peur. Tellement elle a été surprise. Bon, la plupart d'entre nous, lorsque on nous donne une surprise, eh bien, on éprouve de la peur. C'est une émotion, je dirais, primaire, une émotion qui vient de manière quasi instinctive, comme cela. Lorsqu'on nous annonce une mauvaise nouvelle, eh bien, le sentiment, l'émotion qui va monter, je dirais, de manière instinctive, ça va être, bien sûr, la tristesse. Hein, la tristesse. Si on vous annonce que vous avez gagné 300 millions au loto, on tombe dans les pommes, quoi, ou on saute de joie. Voilà, c'est quelque chose comme ça. Hein, voilà. Certains vont éclater de joie, et puis d'autres vont être remplis de jalousie parce que ce n'est pas arrivé à eux. Hein. Les émotions sont souvent accompagnées de signes physiques, tels que la transpiration, le cœur qui bat la chamade, le mal à respirer. Vous avez tous vécu cela, hein. Et puis, en règle générale, ces émotions, elles vont disparaître rapidement. Au bout de 10 minutes, après que vous ayez fait boue à votre conjoint et qu'elle a éclaté, qu'elle a sursauté d'émotions et de peur, au bout de 10 minutes quand même, bon, j'espère quoi, que vous n'allez pas la réanimer quand même, mais ça se calme. Voilà, les émotions sont quelque chose de passager. Mais les émotions peuvent être à l'origine de certains sentiments qui, par contre, peuvent durer dans le temps et qui sont déconnectés des événements extérieurs et qui peuvent nous pourrir la vie. J'emploie le mot pourrir parce que vous allez voir que dans le livre des Proverbes, il y a des mots qui ressemblent à ça, pourrir la vie, lorsque ces sentiments s'installent de manière durable dans nos cœurs. Alors, parce que nous avons un cœur régénéré par le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit agit dans nos cœurs et qu'il habite en nous, nous savons que la plupart du temps, que les sentiments que nous pouvons ressentir et qui nous assaillent et qui nous submergent sont souvent en contradiction avec les désirs et les sentiments que le Saint-Esprit veut mettre en nous. Et c'est souvent un combat, un sujet de prière, un sujet de combat, pour que ces sentiments ne viennent pas s'installer durablement en nous. Nous désirons plutôt, et en tout cas dans ma vie, je désire plutôt que les sentiments que je vive soient les sentiments qui sont inspirés par le Saint-Esprit. Je désire que le sentiment de Jésus-Christ vienne s'installer en moi de manière durable, vienne prendre racine en moi. Alors, tous les sentiments que nous pouvons ressentir ne sont pas tous mauvais, loin de là. Le but pour le christianisme, le but pour nous en tant que chrétiens, ce n'est pas de devenir sans sentiments, hein, détaché de tout. Ne rien ressentir, ce n'est pas la solution. Certaines philosophies, certaines religions prônent le détachement de toutes les affections. La perfection pour ces philosophies, pour ces religions, c'est l'absence de trouble, c'est le non-ressenti. Si on ne ressent rien, on est dans la perfection. Si on n'a plus d'émotions, si on est détaché de tous les événements extérieurs, alors là, vraiment, on est vraiment dans le nirvana, en quelque part. L'absence de désir et de sentiments. Alors, cette absence de troubles, cette absence de sentiments, il y a un nom savant, je vous le dis, ça s'appelle l'apathie, être apathique, voilà, être sans troubles, sans sentiments. Jésus était tout sauf apathique. Jésus était tout sauf apathique, car le Seigneur a partagé la nature humaine dans toutes ses dimensions, y compris les émotions et les sentiments. Sans le péché, il va sans dire. Alors, mes amis, le sentiment qui est souvent associé à notre Sauveur et Seigneur, c'est, et vous allez être d'accord avec moi, c'est la compassion. Hein ? Ce qui se dégage de Jésus à la lecture de l'Évangile, c'est son extrême compassion vis-à-vis de l'humanité. Et les Évangiles nous montrent avec force et détail quels étaient les sentiments de Jésus face devant telle ou telle situation. Devant le lépreux, l'Évangile nous dit il est ému de compassion, ému de compassion. Devant le tombeau de Lazare, il est ému de compassion, et même l'Évangile nous dit qu'il frémit, c'est-à-dire qu'il est ému avec violence devant le tombeau de son ami Lazare. Devant la foule qui a faim, l'Évangile nous dit qu'il est ému de compassion parce qu'il se rend compte que cette foule qui est là devant lui, elle est sans berger, sans espérance. Il est ému de compassion. Je reviens à l'épisode de Lazare. Il frémit dans son esprit lorsqu'il voit Marie, la sœur du défunt, pleurer. Et c'est lorsqu'il voit cette détresse de l'âme humaine, c'est extraordinaire, qu'il frémit en son esprit. Et là, nous avons le verset le plus court qui suit de tout l'Évangile, deux mots, Jésus pleura. Jésus pleura. Et ça me touche énormément que l'Évangile puisse signifier que mon Sauveur, mon Seigneur pleure avec ceux qui sont dans la détresse, qu'il n'est pas apathique, détaché, bien qu'il savait à l'avance qu'il allait ressusciter Lazare. Il ne pleure pas dans un apitoiement de soi, il pleure à cause du mal, à cause du péché et de la mort. Ce ne sont pas des pleurs stériles, mais des pleurs qui engagent tout son être dans sa mission. Et sa mission, c'est de donner sa vie pour ses amis. C'est de donner sa vie pour ses amis. Il n'a pas pleuré uniquement au sujet de Lazare. Dans d'autres passages, il nous est dit qu'il pleure sur Jérusalem, qui va être détruite. Il a la pensée de la destruction de Jérusalem et il pleure sur la ville de Jérusalem. Prions pour Jérusalem, pour Israël en ce moment. Il y a des attaques qui viennent du sud, que ce soit un sujet de prière pour nous. L'Épître aux Hébreux nous décrit Jésus aussi comme ayant versé de nombreuses larmes. Je crois, frères et sœurs, que parfois le Saint-Esprit nous fait partager les sentiments de Jésus face au mal qui nous entoure. L'épître aux Philippiens, l'apôtre Paul qui écrit aux Philippiens, nous dit qu'il les aime, les Philippiens, avec l'affection ou la tendresse du Christ Jésus. L'apôtre Paul, en tant que disciple du Seigneur, dit, lorsqu'il réunit les anciens des églises qu'il avait fondées, qu'il avait versé des larmes jour et nuit, les exhortant au salut. Alors, la compassion n'est pas le seul sentiment, n'est pas la seule émotion que Jésus a ressentie. Une autre émotion l'a assailli lorsqu'il est dans une synagogue au début de son ministère. Marc 3, verset 5. Il y a là, au milieu de la synagogue, un homme qui a la main sèche, qui est dans sa faiblesse. Et là, il y a des gens, des pharisiens et d'autres sortes de gens qui sont là, qui regardent, qui épient Jésus pour savoir ce que Jésus allait faire face à la détresse de cet homme. Or, c'était un jour de Shabbat, c'est-à-dire un jour où normalement on ne doit pas travailler. Et Jésus, c'est marqué comme cela, indigné. Il y a un sentiment d'indignation. Dans d'autres versions, en colère. Jésus en colère. Il va rentrer dans le lard de ces gens-là qui sont en train d'épier, va mettre l'homme à la main sèche au milieu et va guérir cet homme. Il va guérir cet homme. Jésus a éprouvé de la colère. Jésus a éprouvé de la colère lorsqu'il va au temple de Jérusalem et qu'il voit toute la multitude d'échangeurs et des gens qui font affaire sur le dos des gens qui viennent offrir de la louange et des sacrifices au Seigneur. Qu'est-ce qu'il fait ? Il chasse. Et c'est marqué dans l'évangile de Jean qu'il prend du temps pour les chasser, c'est-à-dire qu'il s'installe, il s'assoit, il construit un fouet avec les cordes qui étaient là et il chasse les vendeurs du temple. Quel est le verset qui est associé à cet épisode de la chasse du temple ? C'est le zèle de ta maison me dévore. Hein, le zèle de ta maison me dévore. Le mot zèle, c'est le même mot que jalousie. La jalousie de ta maison me dévore. La jalousie. Nous allons en parler tout à l'heure. Mais alors, encore plus que la compassion, encore plus que la colère ou que le zèle de la maison, la jalousie de Dieu pour la maison de Dieu, je dirais que la joie était le sentiment, l'émotion que Jésus ressentait, je dirais, le plus. Tout à l'heure, il y a Timothée qui nous a lu ce fameux passage hein, dans l'évangile de Luc. Merci Timothée d'avoir eu le courage de dire, le courage par le Saint-Esprit de dire cette parole-là. Jésus tressaillit de joie. Tressaillit. Ils ont vu qu'il y avait de la joie. Son onction, l'onction sur Jésus, dans l'Épître aux Hébreux, il nous est dit que son onction était une onction de joie. Une onction de joie. Jésus enseigne ses disciples dans l'Évangile de Jean et il leur dit, je vous ai enseigné afin que votre joie, à vous les disciples, c'est-à-dire à nous hein, qui l'écoutons, que votre joie soit parfaite, votre joie soit parfaite. Et encore, l'Épître aux Hébreux nous dit que c'est en vue de la joie qu'il a accompli sa mission. Le sens du mal, le sens de la misère des hommes ne lui a pas fait perdre la joie de sa mission. La joie est une part essentielle du message de Jésus. Dans de nombreuses paraboles que Jésus enseigne, il y a bien sûr le temps de la gravité, le temps de la misère de l'homme, mais toujours, pratiquement à chaque parabole, surtout dans l'évangile de Luc, il y a le temps de la joie et de la restauration. Hein? Parabole du fils prodigue. Mais il fallait bien se réjouir lorsque le fils aîné ne veut pas rentrer dans la maison. Il fallait bien se réjouir. Parce que ton fils qui était perdu, c'était un grave problème. Ton fils qui était perdu est retrouvé. La joie du salut. Hein? La brebis perdue. La drachme perdue, la petite pièce perdue, il y a toujours la joie qui est à la fin. C'est une explosion de joie lorsque le salut vient. Il y a plus de joie pour un pécheur qui se repent hein, que pour 1000 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Il y a de la joie, il y a de la joie. Il y a de la joie dans la maison de mon père. Wow. Pendant que j'écrivais ça, j'avais envie de chanter ce chant. Ce n'est pas prévu au programme, c'est dommage. Mais j'aurais aimé qu'on puisse le chanter. Il y a de la joie dans la maison de mon père. Il y a de la joie dans la maison de mon père. Merci Seigneur. Hein? Vous savez que lorsque le Seigneur viendra nous chercher, on va assister à quoi? À ce qu'on appelle les noces de l'agneau. Les noces de l'agneau. Est-ce qu'on pleure aux noces de l'agneau? Dans une noce, est-ce qu'on pleure? Vous êtes des célibataires, pleure, peut-être. Mais en tout cas, on se réjouit de la mariée, du marié. Je ne vous ai jamais raconté ma première rencontre avec Chantal. Ah! Ça a failli mal se terminer, dès que je l'ai vue. Alors, je rencontre cette jeune fille de 22 ans, j'en avais 15, et oui, c'est tant de différence. Mais c'était en juillet au mois d'août 1975, c'est pas d'hier, hein. Certains d'entre vous là-bas les jeunes, vous n'étiez pas nés, hein. Et vos parents n'étaient peut-être même pas mariés, hein. Je venais de me convertir, c'était au mois d'avril 1975, le 15 avril 1975. Et en tant que jeune chrétien, j'avais commencé déjà à développer en mon fort intérieur une idée de ce que devrait être la vie chrétienne. Et dans mon idée, je n'avais pas intégré l'idée de la joie. La vie chrétienne devait être sérieuse, grave, je dirais presque austère. Voilà. Voilà que je me retrouve pour la première fois dans une réunion de prière avec Chantal, et puis il y avait sûrement Aline, hein, parce qu'Aline aussi était là à ce moment-là, Aline Géminard. Et au moment de la prière, Chantal et Aline ont commencé à rire. Et bien, même moi, ça ne collait pas. Et on ne parlait pas de Toronto à l'époque. Hein. C'était un rire sûrement parce qu'ils avaient dû bien simplement se réjouir d'une pensée ou de quelque chose, voilà. Et ils se sont mis à rire en plein milieu de la réunion de prière. Mais moi, je n'étais pas d'accord. J'ai dit, non, ce n'est pas ça. La vie chrétienne, elle est sérieuse. Quand on prie, on ne rigole pas. Hein. Voilà. J'avais fait la gueule. J'en ai voulu à cette jeune femme. Parce qu'elle a brisé l'image de la vie chrétienne que je m'étais imaginée. Je n'avais pas encore compris que l'évangile, elle est joie. L'évangile est joie. L'évangile est joie. Hein. Alors, j'ai parfois encore quelques relents d'austérité, mais le Saint-Esprit travaille dans mon cœur. Hein? Voilà, m'a donné Chantal pour me faire travailler. Alors, un christianisme sans émotion, une vie chrétienne sans émotion, est une vie chrétienne, je dirais, dépourvue de cœur et d'énergie. Dans le mot « émotion », il y a l'idée de mouvement. Écoutez, un verbe qui découle de mot émotion. Émouvoir. L'émotion met en mouvement. L'émotion prie. L'émotion cherche des solutions. Ce sont des émotions saines, des saintes émotions. Et nous devrions ne pas en avoir honte. Je dirais parce que ce sont des émotions qui sont prises par le Saint-Esprit, qui les amène à la lueur de l'Évangile, qui les transforme. C'est parce qu'il est ému de compassion par les gangs des banlieues que Dawie Wilkerson va évangéliser dans les quartiers où personne ne mettrait les pieds, aucun missionnaire ne mettrait les pieds. C'est parce qu'il a été ému qu'il a fondé ce mouvement qu'on appelle le Teen Challenge. La croix et le poignard, les jeunes chrétiens, vous les avez lus? Vous ne l'avez pas lu, La croix et le poignard? Lisez La croix et le poignard de Nicky Cruz. Hein, nous, Corinne, tu connais cet homme-là? William Booth. William Booth. William Booth. Je vais lire juste un petit passage sur sa biographie. La révolte, la colère, la révolte grondait en son âme au spectacle des enfants en haillons, livrant leur maigre chair aux morsures du froid. Voilà, bon, je vais juste ça. La révolte grondait. C'est lorsque nous sommes en plein ère industrielle, beaucoup de misère, c'est la même époque que Germinal, si vous voyez ici en France, mais c'est en Angleterre. Eh bien, lorsque William Booth se promenait dans les rues, qu'il voyait ses enfants en haillons misérables, que cette colère est montée en lui, grondée. Il avait le choix entre la politique, les finances et le Seigneur. Et pour répondre à cette colère, il a choisi le Seigneur. J'aime beaucoup ce qui est dit juste après sur la conversion Williams Booth. C'est son fils qui dit, le général Bramwell Booth, avec une pointe d'humour, disait: mon père n'a jamais pensé que vous puissiez purifier un homme en lavant sa chemise. Mais il a lavé les chemises. Mu par sa sainte colère. Hein. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il a fondé l'Armée du Salut. Hein. Si vous voulez connaître l'histoire, sa biographie, vous vous adressez à Corinne et Blanche, qui sont les descendants de William Booth. Alors, mes amis, nous ne sommes pas tout à fait arrivés et parfois nos émotions et nos sentiments ne sont pas tout à fait comparables à ceux du Seigneur Jésus. Nous nous laissons enfermer dans la tristesse. Cette tristesse ne nous amène pas à la repentance. C'est une mauvaise tristesse, une tristesse qui conduit à la mort et non pas à la vie. Nous nous laissons enfermer dans une colère et ce n'est pas une sainte colère. Nous nous laissons enfermer dans la jalousie et ce n'est pas un zèle saint. Le Seigneur le sait et il veut nous conduire hors de ces sentiments qui sont néfastes, les transformer en des sentiments qui le glorifient. Il veut que nous lui apportions ces sentiments qui nous enferment, qui nous assaillent, pour les lui remettre. Le livre des Proverbes nous donne des conseils de sagesse par rapport à ces émotions. Alors, on va commencer par la colère. Je pense que nous avons tous expérimenté cette émotion qu'est la colère. Oui, ça va? Ça va? Vous êtes avec moi? Vous êtes humain? Vous êtes des êtres humains? Alors, tous les sentiments de colère ne sont pas mauvais. Nous l'avons vu là en parlant de Jésus-Christ tout à l'heure. Mais nous avons du mal à distinguer entre ce qui est de la bonne colère et de la mauvaise colère. Selon moi, une bonne colère se tourne contre les situations et nous met en mouvement pour améliorer les situations. Une mauvaise colère se tourne vers les individus et les renferme. Proverbe 16, 32. Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros. Et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend des villes. Il faut du courage pour faire face à sa colère. Quelqu'un qui apprend à maîtriser sa colère vaut mieux qu'un homme de guerre. C'est ce que nous dit le proverbe. Comment apprendre à maîtriser sa colère, monsieur le sage, monsieur Salomon? Qu'est-ce que tu nous dis? Proverbe 19, verset 11. L'homme qui a de la sagesse est lent à la colère, il met sa gloire à oublier les offenses. il ne tient pas compte des offenses. Ici, nous avons un aperçu du caractère de Jésus qui s'imprime dans le cœur du croyant par le Saint-Esprit. Négligez les offenses à cause de la croix. Priez le Seigneur pour que le Seigneur pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Lorsqu'on oublie d'aller à la croix, accumulation d'offenses qui s'entassent les unes sur les autres. Et ça, ça fait un bon package. Il suffit de mettre une étincelle, ça explose. Alors dans notre marche, dans la sagesse, nous apprenons comme un héros à remettre les choses qui nous touchent, qui font mouche dans notre cœur, à notre Seigneur dans le secret de notre chambre. L'apôtre Paul donne ce conseil, si tu te mets en colère, ne pêche pas, la colère n'est pas automatiquement un péché, mais que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Ne donne pas accès au diable. Ne laisse pas la colère rester en toi à tel point qu'elle t'envemine, qu'elle te donne de l'amertume, qu'elle te tue, qu'elle t'enferme. Ne laisse pas la colère dominer sur toi. Ne rassasse pas tes griefs. Apprends à pardonner. Oublier une offense, ce n'est pas une chose facile. Personnellement, on ne m'a jamais fait une chose que je considère comme impardonnable. Je ne voudrais pas que cela m'arrive. Mais je peux comprendre que parmi nous, certains ont souffert d'injustices vraiment profondes. Et que leur réaction est une colère qui couve et qui couve. Mais la colère nous fait du mal, elle nous pourrit la vie si nous la laissons trop couver. Le diable s'en sert pour nous détruire. Nous croyons que peut-être cette colère devant les faits injustifiables dont nous avons été l'objet est comme une sorte de protection. Mais ce n'est pas une protection, cette colère. Quelque chose qui nous détruit. Alors peut-être à ceux qui vivent ce genre de colère face à une injustice dont ils ont été victimes, je voudrais leur rappeler simplement que Jésus est le sauveur et le juge de tous. Que tout mal sera rétribué. Que tout jugement sera mis en lumière. Alors pourquoi ne pas remettre votre colère au Seigneur qui sera juge de tout et de tous ? Que le Seigneur s'occupe de votre offenseur et de vous-même. Tournons-nous vers la jalousie maintenant. Qui résistera devant la jalousie ? Proverbe 7, verset 24. La fureur est cruelle, la colère impétueuse, mais qui résistera devant la jalousie ? La colère, on l'a vu, c'est déjà quelque chose. Mais il y a pire, c'est la jalousie. Parce que la jalousie s'en prend aux choses bonnes des autres. La colère s'en prend à ce qu'elle pense être de l'injustice. La jalousie n'a aucun support. Quand Caïn a tué Abel par jalousie, en quoi Abel avait-il lésé ou volé Caïn ? Le jaloux veut non seulement avoir ce que l'autre a, mais il en veut plus, il veut aussi que l'autre n'ait plus ce qu'il a. Alors comment pouvons-nous débarrasser de cette jalousie qui parfois nous étreint ? Proverbe 14, verset 30. Un cœur paisible, calme, contribue à la vie du corps, mais l'envie, la jalousie est comme une maladie qui ronge les os, la carie des os, la pourriture des os. Tout à l'heure, j'ai dit des sentiments qui pourrissent la vie. Le livre des Proverbes nous parle des sentiments qui pourrissent, qui rongent la vie. Le remède, c'est une vie dans la paix. Le remède de la jalousie, c'est un cœur qui savoure la paix que Dieu lui donne. Bien-aimés, nous sommes aimés de Dieu. chacun d'entre vous, vous êtes aimé de manière particulière et unique de la part du Seigneur. Vous avez une relation privilégiée, chacun d'entre vous, avec le Seigneur. Il n'y a pas dans le royaume de Dieu, écoutez-moi bien, que cela rentre dans vos cœurs, il faut que ça rentre dans ma tête et dans mon cœur à moi aussi, dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de personne plus aimée que d'autres. Okay? Aujourd'hui, chacun d'entre vous, vous pouvez vous dire, je suis aimé de Dieu. Vous pouvez fermer les yeux? Pouvez-vous vous le dire, le confesser? Je suis aimé de Dieu. Je suis aimé du Seigneur. Merci Seigneur. Dans la parabole du fils prodigue, le fils aîné est aimé. Le fils prodigue est aimé. La relation personnelle que le Seigneur a avec chacun de ses enfants contribue à la gloire de son nom. Le Seigneur voudrait vous faire entendre sa voix ce matin et il vous dit, mon enfant, tu es toujours avec moi. Tout ce que j'ai est à toi. Tu n'as pas besoin de jalouser ton frère ou ta sœur. Ce que j'ai est à toi. Je chéris la relation que j'ai avec toi. Viens, entre dans la maison. Calme ton cœur devant moi. Profite de moi et de ton frère qui est à côté de toi. Je t'aime. Je suis aimé de Dieu. Le remède à la jalousie, ce n'est pas avoir ce que l'autre a, c'est découvrir que ce que l'on a est véritablement un trésor. C'est considérer le don et l'appel particulier que nous avons reçu chacun pour notre part. Personne n'est oublié. Antoine le disait ce matin, je te donne une famille. Je te donne une famille. Et dans cette famille, tu n'es pas un inconnu, tu fais partie de la famille. Est-ce que quelqu'un se sentait comme un étranger ce matin? Le Seigneur lui dit, maintenant, viens, entre dans ma maison, viens, j'ai quelque chose à faire avec toi. Mes amis, si nous devrions être animés d'une jalousie, c'est de la jalousie de Dieu que nous devrions être animés, c'est-à-dire du zèle pour la maison de Dieu, hein. L'apôtre Paul le dit, j'en ai parlé avec quelques jeunes d'ailleurs il y a une quinzaine de jours. L'apôtre Paul dit, je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. L'apôtre Paul était animé d'un zèle, d'une jalousie pure, vraie. Ce qu'il désirait, c'était de voir les gens être animé d'un amour extraordinaire pour Jésus. Et c'était ça qui le motivait. Voilà. Ce devrait être le cœur de tous les ministères, je dirais. Alors, j'ai parlé jusqu'à présent de maladies qui pourrissent la vie et les os. Et heureusement, bonne nouvelle, l'évangile est quelque chose qui guérit, n'est-ce pas? Proverbe 15, 30. Un regard lumineux met le cœur en joie. Et une bonne nouvelle, l'évangile, fortifie jusqu'aux os, c'est-à-dire donne de la force. Alors je voudrais rester là-dessus, pas en dire davantage, mais laisser le Seigneur faire son œuvre en nous, balayer toutes ces émotions qui sont un peu déraisonnées, qui sont un peu en-delà de l'évangile, en dehors de l'évangile. Laisser le Saint-Esprit nous conduire sur la réalité de ce que le Seigneur veut pour nous, qu'il nous donne les émotions et les sentiments qu'il désire pour nous, que nous soyons animés non pas par un zèle amer, pas par une jalousie qui nous étreint, ni pas par la colère, mais qu'il puisse nous donner cette colère qui suscite des vocations, qui puisse nous donner ce zèle qui nous pousse dans les bras de Jésus, qui puisse nous donner cette compassion qui est au-delà de l'apitoiement sur les gens, mais qui nous met en mouvement. Amen. Seigneur Jésus, je veux te prier pour nous, Seigneur, pour notre cœur. Seigneur, je veux te remercier parce que tu as vécu toutes les émotions qu'un être humain pouvait ressentir. Et Seigneur Jésus, c'est animé par ces émotions que tu es venu, Seigneur, dans ta compassion, dans cet amour pour les perdus. C'est animé, Seigneur, en vue de la joie, Seigneur, que tu t'es offert pour nous, Seigneur. Seigneur, je veux te remercier pour la réalité de la joie. Je te prie, Seigneur, maintenant, pour ceux qui, au fond de leur cœur, ressentent de la colère, qui couvent de la colère. Je te demande, Seigneur Jésus, balaye cette colère. Que les ressentiments, Seigneur, puissent être déposés devant ta croix, dans le nom de Jésus. Seigneur, je te prie pour ceux aussi qui vivent une jalousie énorme à l'intérieur de leur cœur. Seigneur Jésus, montre par ton esprit la réalité de ce qu'ils ont, de ce que tu leur as donné, dans le nom de Jésus. Seigneur, en toute chose, nous voulons te remercier. À toi soit la gloire. Amen. Soyez bénis.
Super. Merci Norman.